Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérimentation radiophonique qui nous emmène aujourd'hui sur le festival Ça sonne à la porte pour la deuxième journée. Le festival s'est super bien passé hier, hein, c'était la grande classe, on s'est bien amusé, on a profité du spectacle, nous avons bien ri et nous avons vu sur scène la programmation. C'était, je vous le rappelle, Annabella Hawk, Trix, Tringerfinger, Iso, Fitzroy, Yameo, Ross, Julien Granel et Mintone qui se sont succédés sur scène. Aujourd'hui, une programmation tout aussi impressionnante, mais beaucoup plus longue, à savoir le Captain Parra, Dominique Février, James Baker, Vera Daisy, Shame, James Grunts, hop là, Jack Garratt, Follies, Deluxe, The Deep, Michel Hubert, et nous terminerons avec notre Didier Deuze à nous, en fait. Mais il sera pour vous aussi ce soir, et ça, c'est une bonne nouvelle. On est dans le vent, parce qu'on est comme ça, nous, et on aime bien. On est dans le vent, et vous pouvez venir nous rejoindre, bien entendu, sur ce gros conteneur avec le Ça sonne à la porte, juste au-dessus indiqué. Pour Radio Propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, c'est encore une équipe de choc qui s'y est collée, à savoir l'ami Jean-Jean qui écrit ses interviews sur un piano. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Notre ami Florence, qui a été faire le tour du site et qui a récupéré aussi des rendez-vous auprès des associations. Nous avons l'ami Philippe qui fait du reportage comme personne, l'ami Damien qui aura des questions essentielles. À la technique, on a l'ami Guise qui gère tout ça. Et puis on a l'ami Antoine au micro et à la technique. Vous l'aurez compris, qu'est-ce qui se passe ?
La traduction aussi.
Ah oui, la traduction, pardon, Sandra. Bah, moi j'y connais rien en anglais. On aura Sandra également à la traduction. Et ça, moi, ça m'arrange carrément bien. Vous l'aurez compris, on est parti pour une après-midi, soirée de folie. On est au festival Ça sonne à la porte et on a bien fait d'y être.
Principe actif, le mix des cultures.
Et pour commencer les rencontres, les échanges et les interviews, nous recevons James Baker avec nous. Bonjour James.
Bonjour.
Il nous propose une introspection musicale sur scène, une mélancolie assumée sur le plateau. On aura l'occasion de le découvrir. Moi, je voulais commencer tout de suite par cette ambiance que je qualifie, alors t'as le droit de me contester, bien entendu, hein, d'une espèce de pop-rock mélancolique qui mêle déni, amour, dépression, des choses comme ça. C'est l'univers dans lequel tu navigues ou pas? T'as le droit de me contester autant que tu veux.
Hein. C'est à peu près ça, je dirais. Même si sur scène, je trouve que l'énergie, elle est comme tu dis, rock, pop rock, et pas forcément mélancolique, justement, il y a un truc de positif. Effectivement, dans le ressenti, à l'écoute sur les morceaux, etc., ça peut être un peu mélancolique, nostalgique, tout ça.
Il y a un truc dans la voix et dans la façon de la poser quand même qui vient se mettre un peu en contradiction, ou en tout cas en opposition avec la partie musicale. C'est la ligne artistique, ça?
Je me suis jamais posé cette question. En fait, je pense que c'est assez naturel. Donc moi, comme je compose mes morceaux, j'ai tout de suite l'idée d'un mood et de paroles qui viennent dessus. Donc ma voix, elle se pose assez naturellement. Mais je sais pas si je fais exprès de faire un peu une dissonance entre ce que j'écris, ce que je chante et comment je le chante.
Il y a une façon, ça se répond, moi je trouve qu'il y a, ça se répond, en tout cas ça vient s'opposer parfois, ce qui donne de l'ouverture sur la proposition artistique, bien entendu. Antoine, t'interviens quand tu veux, hein, tu me dis,
oui.
Hein, parce que t'as plein de questions, mais si tu me laisses faire, je te laisse à la ligne de départ.
Hein. Non, pas de soucis, ouais, j'ai plein de questions. Justement, on en parlait de cette mélancolie dans tes morceaux, dans tous tes albums depuis quelques années qu'on te connaît. Quelle est la part de réalité? Est-ce qu'il y a une part romancée un peu? Enfin, à quel point t'es vraiment mélancolique dans ta vie perso?
Je sais pas à quel. En fait, moi j'aime beaucoup, je suis passionné par le cinéma, donc j'imagine des histoires. Qui sont pas forcément réelles, mais je m'inspire d'émotions, en tout cas qui sont réelles, ou même de situations parfois qui le sont aussi. Donc je saurais pas jauger la part de réalité et non réalité, mais à vrai dire, ça sort de moi de façon assez sincère. Donc il y a presque un truc où, mis à part sur des détails, c'est presque à 100% vrai. Mis à part quand je parle d'un contexte, par exemple, où le contexte peut être faux, tu vois.
Ok. sur cette notion justement cinématographique. C'est une façon d'aborder la musique comme raconter une histoire, comme on pourrait raconter un film. Ce goût cinématographique, il est lié à quoi ? À une passion dès du plus jeune âge des films, à des études dans le cinéma, à ce goût de la réalisation, peut-être même au passage à l'acte de réalisation cinématographique.
Possiblement, je l'espère en tout cas. Moi je suis passionné par le cinéma depuis tout petit. Moi je voulais être réalisateur en fait. J'étais passionné par la musique, je faisais de la musique à côté, mais moi mon objectif c'était de faire du cinéma. Et comme j'étais jeune et que j'avais envie de tout de suite mettre le pied dans des milieux un peu plus professionnels, j'avais plus accès facilement à l'industrie de la musique en ayant un ordinateur, en sachant un peu composer, en ayant un micro, etc. Donc je me suis lancé là-dedans et c'est devenu mon activité principale. Voilà, en attendant de potentiellement faire du cinéma.
Ah oui, il y a vraiment ce double truc quoi. Ouais, le clip est pile poil l'entre-deux, non ?
Ouais,
c'est ça, clairement. C'est... Hein.
Mais en vrai, c'est deux arts qui cohabitent en soi. Le cinéma a besoin de musique et la musique a besoin d'images, donc ça marche ensemble, donc c'est cool.
De toute façon, dans le cinéma, sans la musique, il n'y aurait pas ces portées émotionnelles, il n'y aurait pas ces tensions dans des moments clés des films. C'est intimement lié, la musique et les films.
Totalement.
Bien entendu. C'est parce que tout ça, c'est de l'émotion finalement qu'on pose comme ça. On le disait, tu es auteur, compositeur, interprète, en fait en pleine maîtrise du projet total. Est-ce qu'il y a un regard extérieur qui vient se poser sur ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a un besoin d'interaction extérieure ?
Oui, c'est toujours, que ce soit la famille, les amis, les proches, et même au final maintenant je travaille, je compose tout seul, j'écris tout seul, mais ça passe aussi entre les mains d'autres compositeurs, etc. Parce que j'aime partager ce truc et aller aussi un peu plus loin. J'ai besoin de faire évoluer les morceaux, de les comprendre aussi, et ça passe par quelqu'un qui teste quelque chose et que j'aime ou que je n'aime pas, en fait. Ça me permet de juste acter des choses et c'est un processus quoi, ça prend du temps et du coup carrément.
D'ailleurs, t'as dit que tu composais tout seul. Comment t'as appris la musique ? Comment t'y es venu justement ? T'es autodidacte, il me semble ?
Ouais, j'ai pris des cours de piano depuis que j'ai 6 ans. Voilà, donc ça c'était juste la partie un peu formation musicale. Et à partir du moment où j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai eu mon logiciel MAO quoi.
Ouais.
Et à partir de là, j'ai commencé à utiliser les samples. Ensuite, j'ai commencé à composer des mélodies tout seul.
Okay.
Et ensuite à poser des voix dessus, etc. etc. quoi.
Et c'est comme ça que t'as construit ton univers et que t'en es vu à ce style assez éclectique. Enfin, c'est vraiment ta patte à toi quoi.
Bah ouais, écoute, j'ai l'impression de commencer à me trouver moi juste maintenant, tu vois. J'ai galéré à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment, non pas que ce que je faisais avant ne me plaisait pas, mais j'ai dû justement tester plein de trucs, ce qui donne un peu cette vision éclectique. Maintenant j'ai l'impression de me positionner vraiment sur une scène un peu plus indie rock, indie pop quoi, mais avec des influences toujours électroniques, un peu de partout c'est sûr, mais quand même un peu plus positionné qu'avant, où justement ça partait un peu plus dans tous les sens.
Ok. Moi je viens de comprendre un truc en fait. Ça y est, on parlait de mélancolie, de choses comme ça. J'ai trouvé d'où ça vient. En fait, découverte du logiciel de MAO et expérimentation, c'est un manque de sommeil assuré ça. Ça vient de là. Hein. C'est des nuits entières sur la machine.
Ouais,
ou pas
je pense qu'il me manque quelques nuits.
C'est obligatoire, ça vient de là. Non, parce que forcément, la MAO, quand on la découvre et quand on. C'est tellement des possibilités infinies qu'en fait, même c'est un coup à jamais finir un morceau ça.
Bah ouais. C'est clair. C'est un peu le problème de ma vie en vrai. Surtout en ce moment.
C'est obligé. Enfin, la MAO permet des possibilités infinies.
Ouais.
Qu'on se le dise. À quel moment justement tu dis le morceau est prêt ? Parce que ça c'est un vrai enjeu.
En fait
là le morceau est prêt.
Il y a deux choses un peu dans cette question, je pense. Il y a aussi le fait de terminer les morceaux, d'avancer dessus. Parce que moi j'ai tendance à faire beaucoup de maquettes et de faire un couplet, un refrain et de jamais les finir. Justement, il y a un peu ce truc d'autodiscipline à partir du moment où je suis à peu près sûr qu'il va sortir, ou alors à 80% et qu'il est en compétition avec un autre morceau par exemple. Par contre, à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est compliqué de se dire ah là il est prêt, là il manque rien. Il manque toujours quelque chose. En fait, on peut toujours rajouter quelque chose, on peut toujours enlever quelque chose, on peut toujours faire avec quatre accords pareil, on peut faire de la country comme on peut faire de l'électro. Donc en fait, on peut tout changer sur un morceau qui est fini. Maintenant, je pense que c'est une question de enfin, à un moment donné, faut lâcher le bébé quoi. C'est un truc de
fini.
C'est
ça, mais c'est le moment où il va être lâché, il est pas simple à trouver quoi.
Non, mais il se trouve.
Ouais, ça va. C'est des choses qui s'apprennent ça justement, à finir les morceaux. Sur l'expérience. Non, mais c'est une vraie question de est-ce qu'au bout d'un moment,
il y a des choses qui se désapprennent aussi, je pense. Moi, j'ai plus tendance tendance à finir mes morceaux avant que maintenant.
Ah ouais.
Ouais.
Ah mais il y a plein de trucs sur le feu.
Ouais, ouais, c'est ça.
Il y a alors petite indiscrétion, il y a beaucoup de trucs sur le feu là, des trucs qui sont pas finis ou qui sont en voie d'être finis ou des trucs qui seront pas finis peut-être.
Ouais, surtout ça, je pense. Moi j'ai tendance à faire énormément de maquettes comme je disais. Là je suis en train d'expérimenter des choses pour la suite de mon projet. Je dois avoir 150 ou 200 maquettes déjà en cours, mais sur ces 150, je pense qu'il y en a une ou deux qui sortiront quoi. Même pas, peut-être. Je sais pas, je continue.
Et il te reste beaucoup de maquettes justement de ton projet qui est sorti au début de l'année.
Ouais, ouais, carrément, j'en ai plein.
Tu les gardes pour une éventuelle réédition ou
je sais pas.
Parce qu'on peut pas les jeter, on peut pas les jeter tout simplement.
Non, je les garde, c'est sûr. Et parfois je les réécoute et je me dis ah dommage, en vrai c'était cool, mais en vrai j'ai toujours besoin de nouveautés. Et du coup je passe à la suite et j'arrive pas à revenir dessus en général.
Il n'y a pas de recyclage de se dire ça, je garde tel truc de telle partie.
Ça m'arrive, si, ça peut arriver pour les textes que pour la musique en soi. Je récupère des textes de morceaux que j'ai écrits et que je mets sur des morceaux qui sont pas qui sont en cours d'écriture.
Sur la partie visuelle, clipage, visuel même et identité visuelle aussi, hein, comment ça fonctionne chez James Baker ?
Alors moi je suis en collaboration totale avec mon meilleur ami qui s'appelle Simon et qui lui est réalisateur du coup. Et avec qui je suis en colocation, donc c'est pratique pour travailler ensemble. Et du coup voilà, on fait tout ça tous les deux. Donc c'est un travail de partage quoi. Il a sa vision, j'ai la mienne et on essaye de collaborer ensemble et de mélanger un peu tout ça et de faire un truc qui nous plaît à tous les deux quoi.
Non, pardon, Antoine, je croyais que tu avais un réflexe de micro.
Non, non, j'acquiesçais de la réponse, mais c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis.
Sur les... Aujourd'hui, t'es encore seul sur ce projet, en auto... Est-ce que... Enfin, en auto-décision, en auto-gestion, en auto-production de ce que tu... de ton travail, est-ce que ça donne des envies de collaborer au-delà de l'aspect visuel, mais sur la partie musicale, artistique?
Ouais, ouais, carrément. En vrai, je suis pas contre. J'ai beaucoup de mal à travailler en fait avec d'autres gens en direct. Moi j'ai besoin d'envoyer un morceau, que la personne tente de son côté, qu'elle me le renvoie, etc., etc. C'est comme ça que je fonctionne. Ça veut pas dire que ça sera pour toujours comme ça, mais en tout cas pour l'instant ça l'est. Mais ça arrive déjà justement, j'aime bien partager ce genre de choses et faire ça. Mais il faut trouver les bonnes personnes quoi. Parce que ouais, il y a ce truc de un peu rigide aussi, de perfectionniste, que j'essaye de lâcher et qui est important, parce que quand on travaille avec quelqu'un, on accepte aussi que il mette un peu de lui-même dans cette musique ou dans ce produit ou peu importe. Ce que j'ai un peu de mal à faire souvent, mais que justement je travaille.
Et du coup tu disais que t'as du mal à travailler avec les gens, mais est-ce que tu arrives quand même à déléguer un peu certaines prods de tes morceaux, ou tu fais vraiment toujours tout seul?
Non, pas jusqu'au bout. Moi j'ai tendance à faire une grosse partie de la composition et de l'arrangement, et ensuite je travaille avec un mec qui est aujourd'hui un de mes très bons amis, qui s'appelle Charles Dolé, qui fait en fait la partie de réal arrangement par dessus ma vision, etc., qui vient rajouter des mélos. Moi je suis nul à la basse, donc il recoupe les basses beaucoup mieux. Pardon. Il rejoue les basses beaucoup mieux que moi, avec beaucoup plus de groove. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un peu entre nous.
Ouais, c'est ça, la composition a été faite et l'interprétation peut être revue.
Carrément.
Sur les accompagnements type résidence ou autre, c'est des choses que tu pratiques par les salles de diffusion, enfin par les salles de musique actuelle ou par les lieux de résidence artistique, c'est un truc...
Non, ouais, non, c'est pas quelque chose que je pratique. Les seules résidences que j'ai fait, c'était plus pour développer justement des projets qui concernaient mon projet artistique. Mais je suis pas du tout contre. J'ai pas forcément eu des occasions j'ai pas vraiment eu d'occasion en soi, tout simplement. Je me suis pas posé la question si c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Si j'avais l'occasion, peut-être que je me poserais la question, mais je suis pas contre, je suis pas pour non plus. À voir.
Aujourd'hui, tu joues aux alentours de 17h15 sur la scène de Ça sonne à la porte. Des choses particulières par rapport à ce passage scénique, des attentes, une pression, des surprises, comment ça va s'aborder?
Bah écoutez, franchement je suis assez chill, il fait beau, alors que bon, on a eu un mauvais temps un peu cette semaine, donc c'est cool, le site est trop cool. suis venu avec des potes, on passe un bon moment. Non, franchement, je suis trop content de jouer. J'ai hâte, en vrai.
Bon, bah parfait.
Et tu profites des concerts un petit peu ?
Bah carrément, on va aller voir Shame juste après mon passage parce qu'on aime bien.
Tu passes que la journée ou on peut te retrouver tout le week-end ? Enfin...
Non, on rentre ce soir.
Ok, super. Eh bien, merci beaucoup à toi, James Baker,
merci
d'être passé par nos micros, d'avoir échangé sur ta façon de travailler. Je propose qu'on écoute le morceau Distancer, c'est comme ça qu'on dit, hein, parce que je suis très nul en anglais.
Bah, distancé, hein.
Ouais. Ah, distancé. Pour une fois que j'avais un accent anglais. Ah non, mais là, c'est terrible. Hein. Pour une fois que j'avais un accent anglais, eh ben non, c'est en français. Bon, bah, Distancé de voilà. James Baker. On écoute ça en sortie. Merci à toi d'être passé par nos
merci
micros.
À vous.
Écoutez Principe Actif en direct du festival Ça sonne à la porte à Grosseuvre. On vient d'écouter James Baker avec Distancé.
Ce qui est bien avec un physique comme le vôtre, c'est que vous n'allez pas faire attention à votre ligne.
Un physique comme le mien ?
Ben, un physique de radio.
Ah oui, je me dis bien aussi.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Nous sommes toujours en direct, en live et en public à l'occasion du festival Ça sonne à la porte. Et je ne sais même pas pourquoi vous écoutez la radio. Venez, c'est là que ça se passe. L'entrée est gratos, donc c'est forcément dans vos prix. L'occasion pour nous de retrouver sur scène, donc là c'est Captain Parade encore qui est en train de jouer. Il y aura Dominique Février, James Baker, Vera Daisy qu'on retrouve dans un instant à nos micros, Shame, James Grunts, Jack Garratt, Follies, Deluxe, The Deep, Michel Hubert et Didier Deuze, notre Didier Deuze à nous, que nous retrouverons pour clore cette journée. Nous avons avec nous Vera Daisy, pardon, Margot, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va pour toi?
Bah écoute, ça va. Quel temps, il fait beau, c'est un plaisir d'être là.
Mais carrément, hein, on est bien.
On est trop bien.
Exactement. Margot, projet Vera Daisy, qui est un projet... j'ai envie de dire qu'il sonne un petit peu avec des tonalités d'années 90 sur la sonorité, tu me dis quand je dis des bêtises.
Oui, complètement, je hoche la tête, c'est pas radiophonique, mais oui, t'as raison.
Voilà, et je voulais d'abord complimenter ta tenue, je l'ai fait quand t'es arrivée, les auditeurs ne le voient pas, c'est dommage, on fait de la radio ultra colorée, joyeuse, ça fait plaisir.
Bah, merci beaucoup.
Alors je me demandais si le Vera, il y avait un lien avec l'équipe de Scooby-Doo.
Tout à fait.
C'est ça,
bah, oui. Voilà. Bah, oui, mais tu l'as eu, bah ouais. Non, mais trop fan de ce personnage, et puis en fait, bah, j'ai choisi un nom de scène un peu à mon image. J'aime bien les dessins animés, j'aime bien les années 90, j'aime bien les trucs un peu colorés. Je trouve que Scooby-Doo, en termes de couleurs, ils sont quand même une belle équipe, quoi.
Et puis Vera, c'était la plus cool, parce qu'il y en a qui se la pétaient dans l'équipe.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Daphné, elle est quand même un peu, elle se la pète. Hein.
Franchement, ça va. Je crois que ça va. Le pire, c'est Fred.
Fred, il est horrible.
Fred, c'est le pire.
Horrible.
Mais
il est horrible.
On l'aime quand même.
Mais voilà. Moi, mes préférés, c'était Vera et Samy.
Ouais, Samy. Bah, Samy, le loser par excellence, mais on l'aime aussi.
Ouais, mais avec panache. Et ça, c'est important d'avoir du panache dans la loose.
Ouais.
Alors, Vera Daisy, pardon, on est en train de.
Oui, on dit vague, mais c'est ok.
Ouais, mais ça fait partie de te découvrir, j'ai envie de te dire, Margot. Margot, tu proposes un rock, je trouve, joyeux, mélodique et coloré, je viens de le dire. C'est vraiment dans Jula que tu t'exprimes au mieux, c'est ça l'idée, c'est la ligne artistique, j'ai l'impression quand même de ce rock joyeux et lumineux, enfin quelque chose de...
Ouais, après, c'est pas que ça, mais je trouve que j'aime bien dire que j'appartiens à cette scène rock qui cherche à sortir des clichés rock qu'on a pu connaître et voir ces dernières années, enfin ça fait un moment, mais
non,
voilà,
il y a un stéréotype, il y a un stéréotype
du vieux rocker, voilà, qui se drogue, enfin tu vois, bon, bref, et moi j'aime bien me dire que il existe aussi un rock bienveillant qui prône des valeurs hyper cool et inclusif, féministe, intersectionnel, tout ça, et voilà quoi.
Bon, en trois mots, en trois phrases, on vient de parler de militantisme, hein, on va se le dire, on est assez sensible à toutes ces questions là quand même. C'est important pour toi que, en tant qu'artiste, tu viennes poser aussi certaines valeurs, certaines valeurs tout simplement, et certains combats aussi sur scène.
Oui, carrément. Je trouve que dans mes chansons, par exemple, ça peut ne pas trop se ressentir, mais quand on est artiste, pour moi, je pense qu'on est obligé d'être politisé, engagé, et quand on est une femme encore plus, quand on monte sur scène, qu'on joue de la guitare, c'est hyper important d'être consciente de ce qu'on fait et de ce qu'on peut apporter. On peut donner envie à des jeunes filles de se lancer. On est un peu comme des modèles, qu'on le veuille ou non, et du coup, moi, je trouve que c'est aussi une belle partie de la musique et de l'art en général, c'est qu'on a une voix politique à apporter, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est la conscience d'avoir une voix politique dans le travail artistique.
On transmet des messages, on transmet des émotions, et en fait, sans politique, sans subvention, par exemple, il n'y a plus de concerts, tu vois, c'est compliqué. Donc on est obligé de se politiser, quoi. Je me répète, mais voilà.
Mais oui, non, mais on ne va surtout pas t'arrêter sur ce terrain-là. Justement, aujourd'hui, on est sur un festival gratuit qui tient sa gratuité contre vents et marées parfois. Ça fait partie de l'âme de ce festival. Ce qui permet d'avoir un public familial. Ce qui permet, parce que quand on sort à 4 ou 5 membres de la famille sur un festival payant, bah, tout de suite, c'est un budget à anticiper. Sur un festival gratuit, c'est hyper important. Ça permet d'avoir des poussettes, des gens qui découvrent. Et qui aussi découvre les artistes qui vont se produire sur scène. J'imagine que tu es sensible aussi à cette question d'accès à tous,
ouais, bah oui,
pour tous, à la culture.
Ouais, complètement.
sur alors on parlait un petit peu de ce côté militant, je disais que c'était coloré, que c'était assez mélodique, mais il y a aussi quelque chose d'assez direct en fait dans ce rock que tu proposes. Il fait pas de détour en fait. Il est direct, on peut se le prendre dans la face aussi quoi.
Ouais carrément, bah c'est aussi j'aime bien être coloré et être joyeux sur scène, mais il y a quand même des sujets qui sont pas drôles et en fait on peut les aborder avec la colère, et c'est de la bonne colère, c'est une colère qui sert de tremplin, d'impulsion pour changer les choses quoi. Donc oui, ça peut être un rock très frontal quoi.
Ouais, c'est ça qui fait plaisir aussi, parce qu'on vient chercher ça face à une scène.
Une énergie rock, on a besoin de se défouler et ça commence par là aussi.
Alors t'es pleine maîtresse de tes projets, c'est toi Margot qui pilote ton projet.
Ouais, j'ai mon propre label.
Voilà, il y a vraiment une autonomie dans la façon de produire. Est-ce que tu as quand même le regard, alors je sais que tu travailles, ça y est, j'ai oublié son prénom, je l'avais écrit tout à l'heure avec...
Gigi, peut-être
voilà, c'est ça, oui. Exactement, tu travailles avec cette personne-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des regards autres sur ton travail qui viennent influer sur ce que tu peux faire, qui peuvent aussi, partager le taf avec toi?
Je me suis entourée d'une équipe. Là actuellement j'ai une super manageuse qui s'appelle Muriel, j'ai une bookeuse qui s'appelle Chloé qui travaille chez Persona Grata, et j'ai une équipe constituée principalement de
femmes. Mais on peut la
femmes.
Considérer quand même hein.
Oui, considérée, pardon je mélange les mots, mais constituée de femmes, et ça j'en suis fière. Et
c'était un choix?
Disons que c'était pas vraiment un choix, ça s'est fait naturellement. Mais bon, je pense que ça reste un choix aussi de vouloir m'entourer de gens qui me comprennent aussi. Donc voilà. Et sinon, musicalement, je m'entoure donc de Gigi dont on parlait, avec qui j'ai travaillé sur tout l'EP, donc elle a réalisé l'EP avec moi. Et à la batterie, je suis avec Amélie Leroux, qui est une super batteuse, qui est aussi une super copine. Et en fait, on part en tournée, on a l'impression d'être Thelma et Louise, et c'est trop bien.
Enfin, ça finit mal, Thelma et Louise.
Sans la fin, on spoile pas, mais voilà, ça s'arrête. Que sur les bonnes raisons.
C'est en fait dans ce que tu dis, j'entends quand même quelque chose d'ultra féministe quand même, à travers l'équipe, à travers la façon de bosser, à travers défendre des valeurs. Il y a un truc ultra féministe qui passe. Et je me permets de venir un peu te piquer deux secondes. Tu disais, je suis entourée de femmes, comme ça je suis comprise. Les hommes peuvent pas comprendre le projet. Là, je me permets.
En fait, je pense que si, mais je pense que j'ai été énormément déçue dans ma vie par les hommes, parce que c'est pas une attaque personnelle, c'est vraiment je pense que quand on est une femme, on a déjà conscience des oppressions qu'on subit, des injonctions, des problèmes, tu vois, on a tous les mois, on a un truc qui s'appelle les règles et qui est pas cool, il y en a qui ont l'endométriose, enfin c'est des trucs qu'on comprend de base quand on est des femmes, et ces sujets-là sont encore un peu trop discrets dans les cercles masculins, je trouve, et du coup pour moi, déjà, ça me permet d'être un peu plus à l'aise de commencer à travailler avec des femmes. Après, je suis pas du tout fermée. Genre vraiment, comme je disais, c'est pas un choix. C'est un choix, je pense, intrinsèquement. Enfin, tu vois. Mais je suis pas fermée à travailler avec des hommes. Il y a pas de.
Tu parlais de tout un tas d'éléments. Je me permets d'ajouter parce qu'on entend de plus en plus parler, comme dans l'espace public. Tu parlais des règles, tu parlais de l'endométriose. On parle aussi de ménopause de plus en plus, des symptômes pré-ménopause. Enfin, c'est rentré dans le discours. J'ai envie de dire, dans la discussion. Commune en fait de ce monde, et ça c'est plutôt pas mal
que
tout le monde entende parler quoi.
Ouais c'est super que ces sujets deviennent un peu plus accessibles.
C'est un peu récent, c'est plus moderne.
Ouais, je suis d'accord.
Moderne, non, c'est pas moderne le mot. Récent, c'était très bien.
Mais de petit à petit, en vrai, moi ça fait, on va dire que ça fait 10 ans que je suis j'ai commencé la musique à Paris professionnellement. Ça fait 10 ans que je suis là et je constate quand même qu'il y a une évolution et qui est cool. Dès que je tourne, je vais dans des salles, il y a toujours des meufs au plateau, alors qu'à l'époque c'était pas ça, et je trouve ça super. Petit à petit, vraiment, il se passe quelque chose, quoi.
Il y a eu un gros boulot qui a été fait. More Women on Stage fait partie des mouvements qui ont participé à la visibilisation. Je sais pas si ça se dit. Visibilisation, effectivement, des femmes dans des métiers qui, pendant très longtemps, ont été plutôt des métiers d'hommes, effectivement. Ouais. Cela dit, aujourd'hui, on fait les mêmes arrières de scène régulièrement, et de plus en plus de femmes, effectivement, sont sur ces métiers-là. C'est c'est plutôt pas mal.
Oui.
Sur la musique, j'ai que ça sonnait un peu 90 sur certains, oui. Sur certains aspects de la sonorité. Moi, je voulais savoir, je sais pas, t'es venu en voiture, en hélicoptère, en bateau ici.
On est venu en van.
En van. Vous avez tournée. Un van de tournée.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait sur l'autoradio? Qu'est-ce qui tournait?
Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, tu vas trouver ça très drôle. On a écouté un enregistrement d'un concert, de notre concert, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Du coup, on s'est un peu remémoré le set. Donc, on a écouté ça, et puis après, on a écouté Hayley Williams qui joue ce soir à Wheel of Green, qui est un festival à Paris. Et on est dans l'équipe, on est fan de cette meuf, et on est un peu deg de la louper, mais on est très content d'être là. Donc, c'est voilà, ça m'a le pour un bien. Bon.
Et bah, du coup, quel est le dernier concert en tant que spectatrice que tu aies vu qui t'a marqué, un truc sur scène qui t'a un peu soufflé? Alors je dis dernièrement, ça, on peut remonter comme tu veux. Hein.
Oh là là, c'est compliqué. Bah, j'étais. Qu'est-ce que j'ai.
Et c'est pas forcément le meilleur. J'exclus cette notion de le meilleur. Ouais. Regarde, c'est un truc qui t'a marqué.
Un concert qui m'a marqué. Bon, attends, faut que je réfléchisse un peu. Là, comme ça, je crois que c'était l'année dernière, il y avait Boy Genius à Rock en Seine, qui a un groupe composé de Phoebe Bridgers, Lucy Dacus et Julian Baker, qui sont trois meufs qui ont leur projet respectif et qui ont monté une sorte de super groupe de meufs, et c'est incroyable, les textes sont trop bien, leur complicité sur scène est trop belle à voir, et voilà, elles s'entourent que de meufs aussi, donc c'est hyper inspirant. Et